بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. شفيع الإسلام نكونتينيو Inch'Allah, le tafsir de Surat Abasa wa Tawalla. Et la dernière fois, on avait vu que lorsque Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah Rabbul Izza reproche à l'être humain le kufr, le fait qu'il n'accepte pas de croire en un Dieu unique, Allah Azza wa Jal va interpeller l'homme et va demander l'être humain de réfléchir sur différentes situations de sa vie actuelle et des situations de sa vie après la mort. La première question qu'Allah Azza wa Jal a posée à l'homme, que l'être humain réfléchisse, et ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, « Min ayyi shay'in khalaqa ». Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'a créé ? On avait expliqué la dernière fois la création du fœtus dans le ventre de la maman à partir d'une goutte de sperme, la création d'Allah Azza wa Jal, et que l'homme n'oublie jamais d'où il vient. L'homme n'oublie jamais d'où il vient. Et que le fait d'avoir eu l'âme, le ruh, et qu'Allah Azza wa Jal l'a créé, c'est-à-dire Allah Rabbul Izzah, l'a enlevé du monde, du néant, pour lui donner la vie, et que maintenant il est vivant, il est un makhlouk, une créature d'Allah, et qu'en plus il a les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordé à chaque être humain, les bienfaits concernant les bienfaits physiques, la santé, la possibilité de voir, d'entendre, de réfléchir, la possibilité de cogiter, de réfléchir, subhanallah, toutes ces facultés tant physiques que mentales, c'est ni'ma qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. La personne doit bien réaliser que tout ça, ce sont des ni'ma de la part d'Allah. Où est-ce qu'il était avant? Comment est-ce qu'Allah l'a créé? C'est-à-dire la première piste de réflexion, ô être humain, toi qui vis, toi qui affirmes haut et fort que tu n'as pas besoin de croire en Allah, n'oublie pas qu'avant que tu prononces ces paroles, tu étais encore un enfant. Et qu'avant d'être un enfant, tu étais, on va dire, un nouveau-né. Et qu'avant d'être un nouveau-né, tu étais une goutte impure qui était mise dans le ventre de ta maman. C'est-à-dire qu'Allah Rabbul Izzah t'a donné la vie. Et maintenant, comment est-ce que l'homme peut oser, en guillemets, déclarer la guerre à Allah? Il ose dire qu'il n'y a pas de divinité, qu'Allah Rabbul Izzah n'existe pas et que ça a été créé. Wallah musta'an, les thèses des personnes qui ne croient pas en Allah. Donc la première piste de réflexion, que l'homme se souvienne d'où il vient et comment Allah l'a créé. Deuxième piste de réflexion, je pense à ce qu'on vient de voir. Après, on avait vu également ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ, et qu'Allah donne la guidée donc à qui il veut. Et le verset qu'on a lu, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ, le verset 21, puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Alors concernant l'étape de la mort et de la tombe, les mufassirin, rahimahumullah, ils expliquent, et ça on avait cité en introduction, que regardez comment est-ce que les étapes s'enchaînent. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va parler du cycle de la vie, quand l'homme est une goutte de sperme, ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ, que la personne vient au monde et que la personne devient donc un être humain, immédiatement après, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ, immédiatement après, Allah Azza wa Jal parle de la mort et parle de l'étape de la tombe avec les ثُمَّ, hein, on utilise ثُمَّ pour montrer un enchaînement, pour que l'homme réalise que tout ça, ce sont des étapes qui vont passer très vite. Comme on avait dit la dernière fois, le jour de la résurrection, on demandera à une personne, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ, ils vont dire, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمٍ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, on va dire qu'on a vécu un jour ou quelques jours de ce dunya. Alors que c'est quelqu'un qui a vécu 75 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, le jour de Qiyamah, la personne aura l'impression qu'elle a vécu une journée ou deux jours de ce dunya. Et quand on passe d'un monde à l'autre, la notion de temps n'est plus le même. On va voir que quand on passe du monde de ce dunya au monde du ghaïb, au monde de l'invisible, c'est-à-dire le monde de l'au-delà, tout change. Même les valeurs changent. On va voir dans les derniers versets de Abasa wa Tawalla, même les sentiments humains ne sont plus les mêmes. Les gens pour lesquels on avait de l'amour, de la tendresse, de l'affection de ce dunya, on ne voudra même plus les voir le jour de Qiyama, l'étape où il y aura le jugement, la résurrection, la remise des livrets de compte. On ne parle pas encore du paradis. Le paradis, les gens se retrouvent, alhamdulillah. Mais l'étape où Allah Rabbul Izzah ressuscite les gens, on va voir que l'homme va fuir de sa propre femme, de ses parents, de ses enfants. Personne ne voudra que quelqu'un ne vienne lui demander un quelconque service, une bonne action ou de prendre un péché avec lui. Donc le jour de Qiyama, les sentiments ne sont plus les mêmes. La notion de temps a totalement changé. Et c'est là-haut qu'on réalise la réalité des choses. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous révèle des versets, c'est pour nous ramener vers la réalité de l'au-delà. Pour que l'homme finisse par croire au ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Et c'est une lutte de tous les instants que de croire en l'invisible. C'est pas, croire en l'invisible, c'est pas uniquement de dire que je sais que les anges existent. Je sais qu'il y a un paradis. Je sais qu'il y a l'enfer. Oui, ça, ça fait partie des choses, des piliers de la foi. On doit y croire sans le moindre doute. Mais croire en l'invisible, c'est faire, savoir faire abstraction des plaisirs immédiats pour une promesse invisible qu'on n'a pas vue. C'est vraiment ça la grande hikmah. J'aime pas utiliser le mot philosophie, mais la grande hikmah. Le ruh qu'il y a dans la taqwa. Faire abstraction du plaisir immédiat. Ce que le péché peut te procurer comme plaisir immédiat. Parce que quand il s'agit de boire un verre de bière ou d'avoir des rapports avec une femme dans le zina ou autre chose, le plaisir il y est tout de suite. On a ce que le cœur, ce que les pulsions ont demandé. La taqwa, c'est de faire abstraction de ça. Tu sais que tu peux avoir ce plaisir, mais tu le mets de côté. Pour une récompense qu'Allah t'a promis là-haut. Une récompense que tu n'as pas vue, tu n'as pas entendue, tu y crois, Dieu a comme faire. C'est ça, la foi. Comme on l'avait expliqué, le iman, la taqwa, c'est la capacité, la possibilité de dire non face au haram. Par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle le degré de ihsan. Adorer Allah comme si qu'on le voit. Dire, vive d'une telle façon qu'à aucun moment on est prêt à faire un écart de langage, un écart de comportement, parce que nous avons cette conviction qu'à chaque seconde, qu'à chaque moment, Allah Azza wa Jal muttali'un alayna. Allah est au-dessus de nous et il nous observe en permanence. Ça, c'est un croyant qui a atteint le degré de ihsan. C'est vraiment le plus haut degré de foi. C'est la situation du musulman quand il accomplit ça. Sa salah. Quand le mu'min accomplit sa salah, il a cette conviction qu'il est devant Allah, oui ou non ? Qu'Allah le voit. C'est pour ça qu'il contrôle ce qu'il dit. Il contrôle même son regard aussi. Le regard est toujours baissé. Et vous voyez comment il y a une diqqa, il y a une précision chez les fuqaha concernant le regard. Une petite parenthèse, on viendra au tafsir. Concernant la position du regard dans la salah, quand on est en position debout, on regarde l'endroit où on va poser le front. Quand on est, par exemple, dans le ruku', on regarde au niveau des pieds. Quand on est dans le sijda, on regarde vraiment à la chute du nez. Quand on est dans le qiyam, on regarde au niveau des mains. C'est-à-dire, le regard doit être contrôlé. On ne peut pas faire la salah et regarder partout. C'est-à-dire, le regard est contrôlé. On contrôle ce qu'on va dire aussi. Si on prononce quelque chose qui ne fait pas partie de la salah, ça annule la salah. Il a rêvé d'alik. Ça, c'est, on va dire, namouzaj. On va dire, c'est un échantillon de la prise de conscience que doit être celle du croyant lorsque il a atteint le degré de ihsan, une conviction totale qu'il est devant Allah Azza wa Jal et qu'à chaque moment Allah le voit et qu'en plus du fait qu'Allah le voit, Allah Rabbul Izzah crée des anges kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun qui écrivent les actions de l'homme bonnes comme mauvaises. Ça c'est une prise de conscience générale. Mes chers frères, notre dîn est très simple. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien de compliqué dans la religion. Mais il y a des déclics. Il y a des compréhensions de la foi qui sont nécessaires. Autant on va voir des gens parfois qui vont se dépasser dans les bonnes actions, dans les moments périodiques. Le mois de Ramadan, il sera là. Excusez-moi, je cite toujours les mêmes exemples. Mais c'est un constat. Regarde, on est à combien ce soir. Regardez combien de rangs pour la salat al-Isha. Ramenez l'horloge 2 mois et demi avant. À peu près, non, 2 mois avant. Dans le mois de Ramadan, y a pas, si vous arrivez en retard, il n'y a pas de place. Faites un salat à l'extérieur. On parle d'une réalité, malheureuse, mais une réalité. C'est-à-dire que sur le plan des actions, on aura, mashallah, une motivation quand il faut le faire.
On trouvera une personne qui, pendant le mois de Ramadan, je répète, il sera là tout le temps. Salat al-Tarawih jusqu'au dernier rakat, même si c'est très long, la personne se fait un devoir d'être là. On va retrouver cette même personne de la période de Eid al-Adha, la période de Bakrid. On a failli rater la salat à cause d'un débarquement de bœuf. Alhamdulillah qu'on est passé, le bœuf était fini de débarquer. Mais les gens, ils continuent à butiner. Ils butinent au toit du camion. Mais ajib, non mais, Allah musta'an. Et c'était l'heure de la salat aussi, près de la masjid Nour al-Islam. Ces shabab, ces jeunes-là, khalas, ils ont vu le bœuf sortir, d'accord ? Maintenant, c'est à eux de rentrer dans la masjid, d'accord ? Mais non, ils vont continuer la tournée. Ils vont aller à droite, ils vont aller à gauche. Allah musta'an. On voit vraiment que Shaitan joue avec nous. Joue avec nous et nous attire vers les nawahi, vers les extrêmes, les détails techniques de l'action et nous fait oublier le ruh de l'action. On oublie le sacrifice de Ibrahim alayhi salam, l'amour pour Allah qu'Ibrahim alayhi salam avait de son cœur, qu'il a eu cet enfant. Rappelez-moi les chiffres, il avait 82 ans, si je ne me trompe pas. À cet âge-là, il avait invoqué Allah de lui accorder un enfant. À cet âge-là, Allah lui accorde un enfant. Cet enfant grandit. Cet enfant arrive à un certain âge où il devient. Il assiste son papa et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal lui demande de sacrifier son fils. Le sacrifice, le ruh du sacrifice, la hikma du sacrifice, l'esprit du udhiya, c'est faire passer l'amour d'Allah avant l'amour de n'importe quelle créature. Un père qui peut sacrifier son fils unique, ça veut dire qu'il peut tout donner pour Allah. Ce même père qui avant, c'était le mari qui était prêt à laisser son épouse fi wadin ghayri li zar'in 'inda baytika al-muharram, dans la terre aride de Makkah al-Mukarrama, c'est sacrifice, tout donné pour Allah. Et là, c'est pas des actions bil jawarih, ça c'est a'mal al-qulub. Et ça, on a zappé. Tout ce qui concerne l'intérieur, tout ce qui est ancré dans le cœur, wallahu musta'an, on a zappé. Pourquoi est-ce qu'on a zappé? Parce que ce sont des choses qui sont sincères, profonde, et on ne triche pas avec notre cœur. On ne triche pas avec l'amour pour Allah, la crainte d'Allah, la piété. Une personne me faisait une confidence aujourd'hui, une personne me disait que voilà, j'ai peur de tout. J'ai dit, ben, peur de tout, c'est quoi? Des monstres, des fantômes, je regarde trop films d'horreur, Paranormal Activity, je sais pas. Elle dit non, on ne va pas télé. J'ai peur qu'il arrive des choses à mes proches. J'ai compris. Mais je dis, parle. Moi, je fais un petit peu le psychologue aussi. Il dit que non, mais j'ai peur. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes parents. J'ai peur que ma maman meure. J'ai peur que mes enfants aient un accident. J'ai peur. Allah musta'an. Mais ça devient une psychose. Ça devient une psychose. C'est une maladie spirituelle. Et cette maladie spirituelle, elle découle d'un manquement dans un ibadah qui est al-isti'ana, ou alors al-tawakkul, la confiance en Allah. Quand on dit yaka na'budu wa yaka nasta'in, le mot yaka nasta'in, il y a plusieurs tarjamas, il y a plusieurs tafsirs, mais parmi les tafsirs, c'est on s'en remet à Allah. C'est uniquement vers lui qu'on s'oriente dans n'importe quelle situation de difficulté. C'est-à-dire que la personne qui a un manquement, qui pourtant peut-être dans sa vie est un bon abid, est un bon adorateur d'Allah, les piliers y sont, la lecture du Coran, je ne sais pas, peut-être même la mémorisation de versets, mais il y a un manquement, il n'y a pas de tawakkul en Allah, il n'y a pas de confiance en Allah, la personne ne sait pas s'en remettre totalement à Allah, ce qui était la qualité première de tous les anbiya, alayhi salatu wa salam. Donc, de ce manque de spiritualité, qui fait partie des a'mal al-qulub, voilà une vie qui ne connaît pas de stabilité psychologique, parce qu'il y a un manquement. Bref, tout ce qui est intérieur à la sincérité, la dévotion, la concentration, la soumission à Dieu, la soumission à Allah, tout ça, ce sont des actions qu'on appelle des actions intérieures, a'mal al-qulub. Ça, on a zappé. Parce qu'on donne beaucoup plus, on donne beaucoup plus d'importance, mais c'est pas une question, il y a un qui est important, qui est moins, qui est important. Mais on est tellement allé loin dans les actions extérieures. On voit ça. Juste après. Si je perds le fil, je perds tout. Là, je suis avec mon camion de bœuf, je ne sais plus où est-ce que je suis. Et je disais donc que les a'mal al-qulub, ce sont des actions extrêmement importantes à développer. Et le manquement, c'est cette personne qui vient le Ramadan et qui, pour Eid al-Adha, maintenant j'ai retrouvé le fil, pour le Eid al-Adha, le Bakrid, comme on dit ici, la personne va essayer d'acheter the bœuf. le bœuf le plus gros, le plus beau, le plus, et ainsi de suite. Et avec cet espoir que, je ne sais pas, il recherche quoi. Maintenant, si on ne juge pas de l'intention des gens, peut-être qu'il a voulu vraiment donner, faire un grand Udhiya, consacrer une grosse somme pour Allah, pour un sacrifice, et pour, comme il y aura beaucoup de rendements de viande donnés aux pauvres, là-dessus on ne se permet pas de juger. Mais Allah Musta'an, il y a des fois, je me demande, est-ce que à travers cette manifestation du Eid al-Adha, on n'oublie pas l'essence même du sacrifice? J'ai des amis qui me disent que ce matin, ils sont partis très tôt, avant Fajr, d'un parc pour trapper bœuf. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si dans quel endroit, mais ça doit être d'aller haut. Déjà, il faut rouler. Pour arriver là-bas avant Fajr, il faut m'emmener à la race. Il a dû lever 4h30, il pense, pour aller. Je ne me demande pas s'il a jeûné aujourd'hui, s'il a fait Qiyam ul-Layl, s'il a Akhir Thuluth ul-Layl, dernier tiers de la nuit, il a évoqué Allah. Je ne sais pas. Mais lui, quand il s'est réveillé, c'était pour aller voir, pour aller prendre son bœuf. Et la personne me dit, j'ai été choqué de voir des gens dans le parc, à attendre que leurs animaux embarquent dans le camion. L'heure de Fajr est passée, sont restés dans le parc à attendre les leveux, amener les animaux, faire rentrer, embarquer, partir. Ils n'ont pas fait salat de Fajr. Il m'a dit que du coup, ça n'a aucun sens. Ce Udhiya n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête, parce que l'Udhiya est wajib. Il n'est pas au même manzila, au même degré que la salat. Là-dessus, il n'y a pas de divergence. Tout le monde conçoit ça. Vous voyez comment, des fois, on se laisse un petit peu bercé par les waswasa de shaitan, en le faisant croire que non, tu fais quelque chose de bien, mais en fait, on le fait plus par habitude, c'est plus culturel que spirituel. On a besoin vraiment de revenir à ce qu'on vient de dire là, cette notion de ihsan, développer cette conviction qu'Allah est au-dessus de nous, qu'Allah nous voit, qu'il n'y a pas une parole qui est prononcée sans qu'Allah Rabbul Izza le sait, et que les anges inscrivent dans le livret de compte, il n'y a pas un geste qui est fait sans qu'Allah Rabbul Izza ne le sache. Cette conviction là, si on arrive à l'intégrer, ben vraiment on avance de l'iman. En fait, on a besoin d'avancer dans la foi, développer cette relation avec Allah, cette relation de l'invisible, cette conviction en Allah, cette conviction sur la puissance d'Allah, et avec ça, vous allez voir, les actions vont suivre. Maintenant, si on multiplie les bonnes actions sans jamais se soucier de notre iman, c'est là qu'on voit qu'il y a des hauts et des bas. Si quelqu'un vient pour une fois à la réunion de mois de Ramadan, il se dira que waouh, c'est toute l'année comme ça. Mais s'il reste une semaine après Shawwal, des illusions. Se rend compte que ces mêmes personnes qui avaient, mashallah, des signes de dévotion en eux, où sont-ils? Et du coup, on trouve que c'est totalement incohérent. On adore Allah quelque temps, ensuite on délaisse l'adoration. C'est qu'on n'a pas compris le sens du sijda, on n'a pas compris le sens de la salah, le sens de la piété, le sens du ihsan. Donc, cette réflexion, mes chers frères, c'est subhanallah, فَلْيَنْظُرْ non, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ Fa, on va dire fa, c'est pas un mot, akbara, en trois mots ou en quatre mots, Allah akbar, c'est une piste de réflexion qui ne finirait plus. Que l'homme se rappelle que après la vie, il y a la mort, et cet enchaînement est très rapide. Et il y a un mufassir, mashallah, il dit une parole magnifique, que vous voyez jusqu'à où ça va cette réflexion. Que l'homme réfléchisse à cette étape qui est la mort, mais que pour réfléchir, pour arriver à intégrer la notion de mort, il faut analyser. Il faut essayer de se rappeler, et ça c'est pas difficile, les gens qui nous ont quittés. Chacun d'entre nous a enterré un proche, que ce soit quelqu'un de sa famille, ou parmi ses amis, ou parmi les gens qui fréquentaient sa masjid, pour lequel on avait muhabba. On a tous déjà enterré quelqu'un qu'on aimait. Ben, on doit maintenant essayer de réaliser la personne là qui a disparu depuis un mois, puis deux mois, mon grand-père que j'ai enterré il y a 6 ans, il y a 12 ans. Où est cette personne maintenant? Quelle est sa situation sous terre? Et quelles sont les choses qui lui sont profitables? Est-ce que les bâtiments que Dada, Nana l'a acheté, l'a construit, l'a loué, qu'ils nous ont donné en héritage, est-ce que c'est ça qui lui apporte des hasanat de la tombe? Est-ce que ces bâtiments-là, que dont nous vivons de ça peut-être, nous jouissons de ces biens, mashallah, on ne manque de rien, mais est-ce que ces morceaux d'acier, de pierre et de béton, est-ce que c'est ces choses-là qui lui sont profitables dans la tombe, ou alors il y a autre chose là? Wallah. Mais là, il faut pousser la réflexion plus loin. Quand on pense à une personne qui est décédée, il ne faut pas juste aller pleurer sur la tombe. « Ah, il est mort, dada, si seulement il était là, il aurait fait ça. » Yani, ça, c'est la réflexion de l'enfant, ça. On a besoin de dépasser ce stade-là. On ne pense pas à un être qu'on a perdu comme un enfant qui a perdu un objet. J'aurais aimé la voir s'il était là, j'en aurais profité. Non, ça c'est une réflexion trop basique. Le mu'min, il doit se dire que cette personne qui nous a quittés, quel est son ahwal dans la tombe? Qu'est-ce que la personne... Vous voyez quand le prophète alayhi salatu wassalam a enterré un sahaba, et que le sahaba était présent, ensuite certains sont partis, le prophète alayhi salatu wassalam est resté. Il est resté et il a dit une parole, waouh, qui a fait réagir et réfléchir les sahaba, qui a fait un lien violent, je trouve. Allah Akbar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su comment réveiller les cœurs, un lien direct entre la vie sous la tombe. C'est comme si que le prophète a fait ressurgir cette vie sous la tombe et l'a amené devant les yeux de chaque personne qui était présente. Quelle était la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ud'u li akhikum bithabat fa innahu al-ana yus'al. Allahu Akbar. Demandez, invoquez Allah, demandez à Allah de l'aide, demandez à Allah d'envoyer son aide pour cette personne qui est sous la terre. Car fa innahu al-ana yus'al. Car à ce moment-là, maintenant, les anges sont en train de lui poser les questions. Parce que les sahaba prennent conscience qu'il y a un monde qui est en train de s'installer sous cette terre. À 1m20, 1m30 sous terre, il y a les anges qui sont là, qui sont en train de lui poser les questions. Et c'était, et les sahaba, ils ont fait doua, mais c'était également un dhikra, un rappel, pour que chaque personne comprenne et réalise que quand on est sous la tombe, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de l'existence, au contraire, c'est un autre monde qui se met en place, c'est qu'on est rentré maintenant dans le monde de l'invisible, dans le monde du akhirah, qui est l'aboutissement de notre vie de ce dunya. Chers frères, si on comprend ces mécanismes, thumma amatahu fa aqbara, je vous jure, on ne perd plus notre temps, excusez-moi de le dire, à regarder Ligue des Champions jusqu'à 1h30 du matin. On ne perd plus notre temps à réfléchir comment investir, comment gagner plus, comment acheter plus et ainsi de suite, comment faire fructifier mon argent, que ce soit de manière licite ou illicite. Là, wallah, on ne s'égare plus dans ces futilités parce que j'ai réalisé que thumma amatahu fa. Fa, c'est istinab, ça vient juste après. Et ensuite, akbara, et ensuite la personne meurt et la personne est enterrée. Ça, c'est des pistes de réflexion qu'on doit intégrer. Pour qu'on comprenne que tout ce que nous voyons autour de nous, ça dure combien de temps? Il y a un verset qui est magnifique. Rappelez-moi si je me trompe. Allah Akbar, où Allah Rabbul Izzah décrit ce dunya. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yaziru fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe. Dans la traduction de ce verset, il y a une description de ce dunya, dit comment nous parfois on est impressionné par les biens de ce monde, par les richesses de ce monde. C'est exactement comme une personne qui a vu un champ où subitement il y a eu des plantes qui ont poussé et la personne est admirative en considérant que ça c'est la beauté de ce monde, mais quelques heures ou quelques jours après, cette plante commence à jaunir. Et ensuite, les fleurs vont se faner, ils vont devenir secs, ils vont disparaître. Thumma yakunu hutama. Et puis ils vont disparaître. Dit de la même façon, c'est comme ça le dunya. On voit la beauté et en un instant ça disparaît. Mais le problème, c'est que notre conception du temps, quand on est créature de ce dunya, n'est pas la même que dans l'au-delà. Donc nous, on voit, ce qui normalement est censé passer en un instant, pour nous c'est comme si c'était une éternité. C'est pour ça qu'on essaie de s'y accrocher. Et les textes du Coran nous rappellent que non, c'est pas aussi long que vous le croyez. Au contraire, ça va très vite. Ça va très vite et ça va tellement vite que à l'aube de votre décès, la personne, s'il se retourne et regarde ce qu'il a fait de sa vie, c'est comme si qu'avec ses yeux, il peut voir le moment où il est balir jusqu'à ce moment où il va quitter ce dunya et il peut voir les bonnes actions qu'il a accomplies, mais malheureusement, ses péchés. Chers frères, la vie, c'est pas long. La vie, c'est pas énorme. C'est quelques années. 40 ans, 45 ans, ça passe très vite. En un instant, Allahu musta'an, on passe d'étape en étape et quand on se retourne, on se rend compte qu'on a grillé. Il y a une étape surtout. Là, je m'adresse aux jeunes qui sont présents dans la salle avec différentes interprétations des savants sur le mot jeune. Il y en a qui disent jeune, c'est moins de 40 ans. Il y en a qui disent jeune, c'est, si je ne me trompe pas, 35 ans. Moi, j'étais un peu d'avis que c'était 33 ans, l'âge des gens du paradis. Mais bref, à peu près ça. Ceux qui ont dépassé 40, désolé, vous êtes plus très jeunes. Mais ceux qui sont encore de cette tranche d'âge, qu'ils réalisent que c'est une période de la vie qu'on ne pourra jamais rattraper. Il n'y a pas de taouba non plus. Il n'y a pas de taouba. Parce qu'il n'y a pas de péché. Ce n'est pas un rapport avec le péché. C'est un temps précieux qu'Allah vous accorde. C'est-à-dire dans votre espérance de vie, c'est-à-dire à partir du moment où on est baligh, on va dire 14, 15 ans, jusqu'à la mort, il y a, on va dire, 50 ans à peu près, ou 60 ans où on peut faire de bonnes actions. Mais dans ce laps de temps, il y a une période qui est en or. C'est à partir du moment où on est baligh jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, voire au maximum 40 ans. C'est ce qu'on appelle la jeunesse. Si on a zappé cette période, on l'a vécu comme on le voulait, et qu'on a dépassé, même si après, à l'âge de 50 ans, 55 ans, on réalise qu'on a été dans le mauvais chemin, on demande Tawbatul Nasuha, on revient vers le droit chemin, on devient quelqu'un de bien, sans le moindre doute, Allah Rabbul Izza pardonne les péchés. Mais ce que vous avez raté, c'est fini. Le temps, ça ne se rattrape plus. Il n'y a pas de tawbah, il n'y a pas de repentir concernant le temps. C'est pour ça que sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, il y aura Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah, les jeunes qui ont grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est le laps de temps le plus apprécié, le plus aimé par Allah. Pourquoi? Parce que les fitanes ont plus d'impact. Les sources de tentation sont plus pesantes chez l'être humain quand il est jeune, quand on a 16, 17, 18, quand on a 20 ans, 22 ans, on a plus de penchant pour l'illicite, pour le haram. Et si à ce moment-là, on sait se contrôler par amour, par crainte d'Allah, subhanallah, la promesse, elle est magnifique. La promesse, c'est vraiment la promesse d'Allah, de notre Dieu l'unique, avoir une place sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où les gens seront debout sous le soleil, avec la transpiration qui va atteindre des degrés en fonction de leurs péchés, tandis que d'autres seront sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, parce que c'est le moment le plus important dans la vie d'un être humain. Donc, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ. Bismillah. Je vais retrouver mes notes. ثم إذا شاء أنشر. Autre réflexion, Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'ensuite Allah va redonner vie à cet homme. Vous voyez comment les étapes s'enchaînent. Goutte de sperme, vie, vous mourrez, vous êtes enterré et Allah vous ressuscite. Comprenez que tout ça, ça va s'enchaîner. Donc puis il le ressuscitera quand il voudra. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. Les mufassirines disent que ce terme, Allah Rabbul Izzah aurait pu dire comme فَأَقْبَرَ ثُمَّ أَنْشَرَ. Ensuite, Allah le ressuscite. Ça aurait été le sens. Mais ثُمَّ إِذَا شَاءَ, c'est quand il veut. Pour bien montrer que tout ça, c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et il y a des fois où il y a une leçon magnifique également. Ibn Kathir, rahimahullah, il a un petit peu abordé, et d'autres me fascinent, mais c'est un petit peu plus technique, hein. Si, mashallah, vous saisissez ce que je veux dire, barakallahu fikum. Dire que, vous voyez, il y a des fois où on a un blocage par rapport à notre conception du temps, par rapport aux iqab, aux punitions liées aux injustices ou aux mauvaises décisions qu'on a prises dans notre vie. Maintenant, on voit une personne qui a pris une mauvaise décision dans sa vie, décidé d'aller vers l'alcool, vers l'adultère, vers les boîtes de nuit, vers la musique, vers la consommation du haram, et ainsi de suite. Mais on voit que la personne s'en sort super bien. Elle vit bien. Malgré tout ça, il réussit. Il obtient son diplôme. Il a eu un boulot. Il s'est marié. Il a pu acheter une maison. Il a des enfants. Il a une vie totalement épanouie. Alors qu'il était dans le haram, de la tête aux pieds, et que même après le mariage, il est dans le haram, on regarde comment sa famille, regarde la tenue vestimentaire de son époux, de ses enfants, yani, ils sont dans le haram, yani, sans souci du dîn, mais malgré ça, ils ont une réussite totale dans ce qu'ils font. Et on se dit, mais si vraiment ils étaient dans le faux, pourquoi est-ce qu'Allah ne les punit pas? Pourquoi est-ce qu'Allah ne fait pas de ces gens un signe? Parce que notre conception du temps nous bloque. On a la conception du temps d'un petit être humain qui tourne, comme l'heure, ça tourne. Ben pour nous, dans la tête, ça tourne, on ne voit pas au-delà de ça. On n'arrive pas à réaliser qu'une personne puisse être dans l'erreur, mais Allah va le laisser dans l'erreur, va le combler de bienfaits pendant 20 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à sa mort. Mais on a l'impression que le gars, il a vécu heureux jusqu'à sa mort, tout qu'on fait, il s'en sort bien. Il est mort, on a fait la salat janaza à la mosquée, on l'a enterré, il y avait 150 personnes au cimetière, ils ont fait doua pour lui. Ben, il est passé au travers les mailles du filet ou quoi, na'oud billah, ou il s'en est bien sorti. Non, ça c'est ta conception du temps. Tu as l'impression que 50 ans il a joui des bienfaits de ce monde. C'est quand Allah le veut qu'Allah sévit. C'est quand Allah a décidé que sa justice s'applique. Et la justice d'Allah peut intervenir de ce monde, mais en général, ça intervient dans l'au-delà. On va un peu plus loin concernant les dhulm, les injustices. Quand on voit ce qui se passe dans des pays musulmans, dans des pays non musulmans, comment il y a des ahlut tawhid, des gens qui ont la foi de leur cœur, sont persécutés, sont opprimés, ils perdent leur vie même, ou on prend la vie de leurs femmes, de leurs enfants, on se dit comment ça se fait que les oppresseurs continuent à être honorés dans ce monde. Ils ne sont pas punis, ils ne sont pas châtiés par Allah et on les considère plutôt comme des héros plutôt que des criminels ou des tyrans. Parce que notre conception du temps nous bloque. On aimerait voir un résultat maintenant. Parce que pour nous, le résultat doit venir. Alors qu'Allah Rabbul Izza a décidé de laisser l'oppresseur dans son dhulm. Le laisser. Mais Allah Rabbul Izza sait mieux que quand il va le sévir, ce sera un châtiment exemplaire pour toute la résurrection. Et Allah Rabbul Izza va laisser l'opprimé dans être mazloum, être opprimé. Il va le laisser, même si on se pose des questions, comment ça se fait qu'il n'y a personne pour les aider? Il n'y a pas la nusrat d'Allah qui vient. Mais quand Allah a décidé de venir en aide à ces gens-là, ce sera certainement dans l'au-delà, Allah va leur accorder un rang, un grade qui sera envié par la terre de la mahshar, la terre de la résurrection. La conception du temps de l'être humain est très limitée. On pense que les conséquences des actions, des actes, doivent intervenir maintenant. Mais Allah Azza wa Jalla a décidé que c'est quand il le veut qu'il y aura récompense ou il y aura punition. Donc, ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ, c'est quand Allah le voudra qu'il y aura le nushur. Et dans le murur, dans ce temps qui défile, il y a une hikmah d'Allah, parce qu'Allah a décidé qu'il y aura tant, une certaine quantité de makhlouqat, de créatures qui vont s'enchaîner dans ce dunya, prendre la place les uns des autres. Il y a une quantité de créatures qui doivent venir de ce monde et mourir et disparaître. Tant qu'il n'y aura pas l'intégralité de la création d'Allah qui passera sur cette terre, Allah ne décidera pas encore, n'appliquera pas encore la prochaine étape qui est l'étape de l'au-delà. Thumma idha sha'a anshara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Il y a deux tafsirs. Il y a le tafsir d'Ibn Kathir, un de ses opinions, mais ce n'est pas l'opinion qui a été retenue, donc du coup on ne va pas le citer, parce que c'est un peu plus proche du sens littéral du verset. Nous on retiendra l'autre avis, qu'Allah lamma yaqdi ma amara. Aïe, en fait ces deux versets, on aurait dû les commenter ensemble. Aïe, lam yatim li nashr ou li inshar hadha al-mayyit bal lahu maw'idun muntazir. C'est-à-dire que le moment n'est pas encore venu. Mais Allah Azza wa Jalla a décidé que le moment où il va ressusciter les gens, où l'autre étape va commencer, c'est quelque chose qui va venir un peu plus tard. L'opinion d'Ibn Kathir, ça avait l'air d'être un des tafsirs qui est cité par Ibn Kathir, c'est que l'homme n'a pas vraiment accompli ce que Allah lui a demandé. Ça rejoint un petit peu le sens, mais l'opinion le plus radih, c'est le deuxième tafsir qu'on a cité. Mais, et qui, en fait, se rapproche du verset, ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. On aurait dû commenter en même temps qu'Allah لَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَ. Autre réflexion qu'il y a de Surat Abasa wa Tawalla. Maintenant, on a parlé de la création de l'homme, de sa vie sur la terre, la mort, le fait qu'il soit sous la tombe, sa résurrection, quand Allah l'a décidé. Maintenant, Allah Rabbul Izzah invite l'homme à réfléchir sur les bienfaits qu'il lui a accordés. Et ça, c'est chacune de ces étapes. Ça, c'est ce qui fait partie du caractère miraculeux du Coran. Il a été révélé il y a 15 siècles et les gens qui l'ont reçu, ils peuvent méditer sur chacun des versets et les appliquer dans leur vie. Même après 1500 années, nous pouvons toujours méditer sur les mêmes versets et en extraire les mêmes règles pour notre vie de tous les jours. On peut réfléchir jusqu'à maintenant comment on a été créé, notre vie, on va bientôt mourir, on sera sous la tombe. Un jour, quand Allah a décidé, il va nous ressusciter. Et j'ai zappé, il y a un deuxième tafsir. Il y avait un ta'liq un commentaire d'Ibn Kathir qui était intéressant sur Idha Sha'a Anshara, disait que le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant de la résurrection, il dit Ya'kulu turabu kulla shay'in min al-insani illa ajba dhanabi. Dit que la terre, là on parle de l'homme qui est enterré, la terre mange l'intégralité du corps de l'homme à l'exception. Là, il a cité une partie du corps. Et là, le sahaba dit, quelle est cette partie? Le prophète a décrit la forme de cette partie du corps. La traduction la plus proche, c'est le coccyx. Un petit morceau, hein, la fin du squelette de l'être humain. Ça, la terre ne mange pas. La terre ne le détruit pas. Et c'est à partir de ce petit os-là qu'Allah Azza wa Jal va redonner vie. On avait, dans le passé, expliqué avec un peu plus de détails comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal redonne la vie, hein, comment est-ce que l'âme va ressurgir que lorsque l'ange va souffler dans la corne pour la seconde fois, Israfil alayhi salam, et que les âmes vont pénétrer sous terre et que les corps vont reprendre forme, reprendre vie, ils vont se mettre debout et là ils vont retrouver la vie, ils vont ouvrir les yeux. Et il y avait le verset ne me revient pas, c'était un verset assez brusque aussi, avec des enchaînements de verbes, que la personne se réveille et il voit. La personne se réveille et la personne constate, voit un spectacle ahurissant. Mais c'est pas précisé un spectacle ahurissant, ça c'est moi qui rajoute en tafsir. La personne se réveille et la personne voit. Sans préciser, il voit quoi? Mais non, on sait, il voit quoi? Il voit la terre de la résurrection avec l'intégralité des makhlouqats, avec les anges qui descendent. C'est-à-dire une scène qu'aucun être vivant ne peut imaginer. Ça c'est le choc de la première vision de l'au-delà. Et c'est à ce moment-là que l'homme prend conscience que c'est une réalité. Donc pour revenir, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ. Allah Azza wa Jal invite l'homme à réfléchir sur les bienfaits qu'il lui a accordés. Parce que l'homme qui refuse de croire en Allah, ben qu'il réfléchisse tout ce qu'Allah lui a accordé comme bienfait. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ. Que l'homme considère donc sa nourriture. Et là on va enchaîner quelques versets. On aimerait terminer à Abbasah ce soir. Anna sababna al-ma'a sabba. C'est nous qui versons l'eau abondante. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Puis nous fendons la terre par fissure. Fa ambatna fiha habba. Et y faisons pousser grains. Et puis il y a pas mal de plantes, ou comment on appelle ça, de choses qui sont citées dans le verset. Vignobles, légumes, oliviers, palmiers, jardins, fruits et herbages. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Alors, cet enchaînement de versets depuis le numéro 24 jusqu'au 31, c'est un rappel sur tout ce qu'Allah Azza wa Jal accorde à l'homme. À notre niveau, chacun doit être capable d'analyser. Ça, c'est important, de poser. Il y a des fois où il faut mettre la vie sur pause et analyser ce qu'Allah nous a accordé et être reconnaissant. Et se dire que Allah m'a accordé autant de bienfaits, quelle est la suite de la réflexion? Allah m'a accordé autant de bienfaits, donc comment est-ce que je peux continuer à désobéir à Allah? Comment est-ce que je peux m'obstiner à rester dans le péché, dans le haram? Alors qu'Allah m'a accordé la santé, ça on avait parlé tout à l'heure, mais là Allah parle de ce qu'il nous donne, la subsistance. C'est un ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut jamais se dire que je mange parce que j'ai de l'argent. Je travaille donc, j'achète. Là, wallah. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne peuvent pas manger. Ils ont des problèmes de santé ou autre chose. Donc, Allah Rabbul Izza rappelle à l'homme qui lui a accordé at-ta'am, la nourriture. Et là, la base même de la nourriture, c'est en relation avec l'eau et la terre. Deux éléments naturels. Tout ce qu'on peut manger, que ce soit produits carnés, produits préfabriqués et tout, à la base, il y a l'eau et la terre. La terre, parce que c'est de la terre que poussent plantes, arbres, fruitiers, légumes et ainsi de suite, mais également, lorsqu'on parle de c'est des, je ne suis pas très fort en truc de plantes et tout, c'est comme des herbes et tout, hein, qui poussent et qui servent à nourrir les animaux. Parce que pour qu'on mange de la viande, Là, on a parlé des fruits, des légumes, et ainsi de suite. Mais pour manger la viande, du cabri, du bœuf, du poulet ou du mouton, ce que vous voulez, il faut bien que cet animal-là, il mange du fourrage. Voilà, cherchez pâturage, fourrage, du foin, ou de, je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais qui c'est qui fait pousser ça? C'est Allah. Allah fait pousser des choses que nous pouvons nous-mêmes consommer, mais également des choses que l'homme ne consomme pas, mais ces animaux vont consommer pour qu'ils aient de la chair, de la graisse, pour que l'homme puisse les manger, ou pour que l'homme puisse extraire du lait de ces animaux. Tout ça, c'est en relation avec la terre et en relation avec l'eau. C'est Allah qui fait tomber la pluie, c'est Allah qui ordonne, qui donne la vie à ce qui est mort. Prenez une graine de citrouille. Ce matin même, une personne qui est en train de préparer un carré de citrouille, donc il a pris des graines, il m'a dit que je vais planter ça. Bon, moi, je ne suis pas trop fort de ça. Dit, ben, quand il plante, il pousse. C'est bête comme question, mais oui, ça pousse. C'est comme ça que ça marche depuis des milliers d'années. Personne dit, bien sûr. Personne n'a jamais dit, oui, ben, bien sûr. Quand on plante, ça pousse. Ça donne des magnifiques citrouilles, tu n'as pas besoin d'acheter et tout. Et puis, je me dis que, subhanallah, vous voyez une graine de citrouille, vous faites quoi avec ça? D'accord, bon, on a de magnifiques grillés, mettre de sel, ils mangent. C'est très bon. Mais, et après? Et de quelque chose qui est inerte, quelque chose qui est inerte, qui est sans vie, qui ne représente strictement rien, qui n'a aucune valeur, Allah Azza wa Jal crée quelque chose. Allah crée quelque chose qui sera profitable à l'être humain à partir d'une graine. C'est-à-dire, et là, il faut pousser la réflexion plus loin. Qui c'est qui a programmé cette graine de citrouille, d'haricot, je ne sais pas quoi, qu'au bout de 15 jours, tu as des petits... Comment ils appellent ça? Des petits trucs qui sortent de la graine. Des tiges, d'accord, hein? Des germes, des tiges, et que ça va s'agripper à la terre, ça va s'imbiber d'eau, ça va prendre ce qu'il y a de la terre pour... Qui c'est qui a coordonné tout ça? Est-ce qu'ils ont été paramétrés? Est-ce qu'ils font des mises à jour de Windows 2012, 2015, 2016? Non! Depuis des milliers d'années, ça se passe comme ça. Maintenant, dites-moi, amenez-moi le plus grand médecin, le plus grand scientifique, le plus grand biologiste au monde. Dites à cette personne, voilà, s'il te plaît, fais pousser une citrouille, hein, s'il te plaît, une calebasse ou un patate ou un pomme de terre, un oignon. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, amenez-moi des graines, amenez-moi des ingrédients. Non, pas tout ça. Sans rien. Assieds-toi dans une salle, je te donne une paire de gants, d'accord? Tu as une table de travail, il n'y a rien. S'il te plaît, crée. Il dit, ben, on ne peut pas, ça c'est pas possible. On crée à partir de ce qui existe et tout. Allah, qu'Allah, Rabbul Izzah, crée à partir de Al-Adam, à partir de ce qui n'existe pas. Ça, c'est la grandeur de la création d'Allah. Et c'est là-dessus aussi qu'Allah, Rabbul Izzah, nous invite à réfléchir cette relation entre l'eau qui tombe et la terre. Et le fait que la terre donne, permet de faire pousser arbres, fruitiers et légumes, tout ça, ce sont des bienfaits d'Allah, Rabbul Izzah. Et malheureusement, nous vivons à une époque où nous avons arrêté de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut aussi qu'il n'y a plus d'artistes de nos jours? Parce qu'on ne réfléchit plus. On est pris avec les réseaux sociaux, avec la télé, avec la Champions League, avec la First League, le Bundesliga, avec le Calcio. Excusez-moi, je connais plein de mots. Hein. D'accord, ça c'est la jeunesse qui ressort. On connaît tout ça, on suit, on devient comme des bêtes. Bêtes et bêtes. On devient stupide, complètement stupide, parce qu'on est aliéné avec ces choses-là. Ce qui fait que l'homme... Pourquoi il n'y a plus de philosophes? Où sont les grands philosophes? Où sont les grands écrivains comme il y avait dans la littérature française? Où sont les Montesquieu, les Voltaire, les Rabelais, et ainsi de suite? Où sont-ils? Montaigne, il n'y en a plus. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus des rigolos qu'autre chose. Il n'y a plus. Où sont les grands... Bon, les chercheurs et scientifiques, ça, il y en a. Mais c'est-à-dire le philosophe ou l'homme de lettres, d'accord, ou l'artiste, d'accord, c'est des gens qui réfléchissent. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui sort de leur réflexion, de leur conception des choses, et ils vont donner vie à quelque chose, de certain sens. Il n'y a plus. Même sur le plan tadabbur bi ayatillah, le fait de pouvoir méditer sur la création d'Allah, il y a peu de gens qui arrivent à le faire encore. Parce que nous sommes emprisonnés par une vie virtuelle. Quand une personne est devant sa télé, rien de pire que quelqu'un qui, en sortant de ce travail, regarde la télé jusqu'à... s'endormir devant la télé. Ça, c'est une vie gâchée, ça. Comme Homer Simpson, il mange des donuts, il regarde la télé, et en plus, il croit tout ce qu'on dit à la télé. C'est exactement nous, ça. On mange, on regarde la télé, et tout ce qu'on dit, ah, là-bas, ils ont fait ça, les musulmans, ils ont coupé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ah, ben, c'est vrai, c'est comme ça. On croit tout. C'est un schéma de l'homme bête. Il y a eu le mot sapien, le mot erectus, maintenant, c'est le mot stupidus. d'accord, qui croient tout ça et qui restent de ce cercle. Bref, on ne réfléchit plus. On n'arrive plus à réfléchir sur la création. On mange des pommes, on mange les chis, on mange tout ça, mais on n'arrive pas à réfléchir. Mais qui c'est qui a créé ça? On a deux arbres côte à côte dans le même jardin. Il y a un qui donne mangue, il y a un qui donne les chis. Mais Ajib, comment ça se fait? C'est la même terre, c'est la même pluie, c'est le même climat, mais c'est des fruits différents, et ainsi de suite. On n'arrive plus à réfléchir sur la création d'Allah. Ce qui fait que le tawhid de l'ububiyya, il descend au bas niveau. Et si le tawhid de l'ububiyya descend, automatiquement, notre unicité d'Allah dans le culte, le niveau va diminuer également. Et d'une manière générale, notre croyance en Allah diminue. C'est pour ça qu'il y a des grands versets, « Inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari », verset qui fait plus d'une page. Parce que Allah Rabbul Izza interpelle les ulul albab, les gens qui sont capables de cogiter, de voir, de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de versets qui invitent l'homme à réfléchir, à penser, à voyager? Initiation voyage, comme on appelle ça en littérature. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Qu'il regarde. Voyager, aller et regarder. Regardez, prenez un ibra également des populations qui étaient avant vous. D'accord? Quand on parlait de thumma amatahu fa akbara, on pense à la mort, mais à travers l'histoire aussi, pensez au peuple. Où sont les ah là là, j'oublie le nom, les gens qui étaient en Afrique là, Allahu Akbar. Là, en Abyssinie, hein, c'est une armée très puissante. Où sont-ils? Cette civilisation, elle a disparu, qui est une civilisation très forte. Les Romains, les Grecs, combien de personnes, combien de peuples sont venus? Ils ont existé. Ils ont eu une influence sur le courant de l'histoire de l'humanité, d'accord? Et ils ont disparu. Combien de personnes sont venues de ce dunya et ils ont disparu? Où sont-ils maintenant? Ils ont disparu. Ça, c'est la limite de ce qu'on apprend en histoire à l'école. Mais nous, on aimerait savoir, ils sont où maintenant? Et comment ça se passe pour eux maintenant? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi le passage dans l'au-delà? Ce sont là des pistes de réflexion. Donc réfléchir à ce qu'on était avant, réfléchir à notre vie et nos choix, réfléchir, méditer sur la mort, sur la vie dans la tombe, réfléchir également au bienfait, à la résurrection et réfléchir au bienfait qu'Allah Rabbul Izzah nous a donné, nous a accordé. 47 minutes. On ne pourra pas compléter ce soir parce que le point qui vient juste après, c'est quand même après 5 piste de réflexion, il y a la mise en garde. Et la mise en garde qui sonne comme une alarme. Faïda, attention, Faïda ja'ati sakha, qui est traduit par puis quand viendra le fracas. C'est-à-dire que là, il n'y a plus à réfléchir là. Si tu n'as pas pu comprendre, réaliser que Allah est au-dessus de toi, qui t'a créé, que tu dois revenir à lui, sache que de toute façon, il y a as-sakha, c'est la fin du monde. La fin des temps, quand tout va exploser, quand Allah va ordonner à l'ange de souffler dans la corne et que toute forme de vie va être détruite. Et là, il y a description de l'au-delà. Et là, il n'y a plus de réflexion. Parce que le premier verset qui décrit as-sakha, c'est يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. On touche les sentiments humains. Premier descriptif de l'au-delà, on te montre que tout ce qui t'était très cher, tout ce qui avait de l'importance dans ton cœur, tout ça va s'éloigner de toi le jour de Qiyama. Le frère, la mère, le papa, sa compagne, son épouse Yani et ses enfants, plus personne ne s'occupe de toi le jour de Qiyama. Là, il n'y a plus à réfléchir. Là, il y a natija, il y a le résultat. Là, on paye cash comment on a vécu dans ce dunya. Donc ça, c'est l'autre étape. Hein, c'est les derniers versets de 33 à 41 de Sourate Abasa wa Tawalla. C'est des points assez importants. Inch'Allah, on développera ça vendredi prochain. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et n'oublions pas que nous sommes dans la période de la décade de Dhul-Hijjah. N'oubliez pas qu'il faut faire le maximum de jeûne. Vous connaissez les vertus du jeûne, de Arafat bien sûr. Et on continue à rester ferme et les bonnes œuvres, Inch'Allah. Et ceux qui ont fait l'intention de faire l'Udhiyah, n'oublions pas non plus que parmi les règles de jurisprudence concernant l'Udhiyah, il est un peu tard pour le dire, l'homme qui doit sacrifier un animal ne doit pas se couper les ongles, ne doit pas se couper les cheveux et ainsi de suite. Ça aussi, ça fait partie des points qu'il faut respecter. Et si on a un sacrifice, on essaie de recentrer le niya, l'intention. On essaie de ressentir vraiment que c'est un animal qui nous a coûté de l'argent. C'est un sacrifice, mais on le fait pour Allah, par amour, par soumission pour Allah Rabbul Izzah, comme c'était le cas de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.